Bien, chers collègues, il est 18h30. Nous allons démarrer cette assemblée. Bonsoir. Non, mais vous n'êtes pas en retard, on vient juste de démarrer. Bon. Alors, je vais procéder à l'appel. Monsieur Benoît Sanchez.
Présent.
Monsieur Denis Dussargues.
Présent.
Monsieur François Morand. Monsieur Guy Soulavi.
Présent.
Monsieur Rodolphe Pérez. Monsieur Christian Perron. Monsieur Jean-Louis Grappin.
Présent.
Madame Marie-Claude Bompard. Monsieur Claude Raoux. Madame Marie Calero. Madame Marie-France Nercessian. Monsieur Pierre Michel. Madame Christine Fournier. Monsieur Jean-Marie Vasse. Que j'excuse. Notre collègue traverse une période un peu difficile. Jean-Marie Vasse. Et donc il ne peut pas être là ce soir. Madame Jacqueline Morel, que j'excuse aussi et qui m'a donné pouvoir. Monsieur Claude Besnard. Ça, ne vous étouffez pas, monsieur Besnard. Ça peut arriver, vous savez. Ça fait partie de la politique. Madame Thérèse Plan. Monsieur Pierre Massard. Madame Laurence Desfonds est excusée à donner pouvoir à monsieur Soulavi. Monsieur Serge Fiori, qui est là. Madame Sophie Chabanis. Monsieur Flaugère, qui est excusé, qui a donné pouvoir. Madame Estelle Amaya-Rios. Monsieur Jean-Claude André, docteur, je vous ai vu. Madame Marie-André Altier. Monsieur Claude Raffinesque. Madame Virginie Vicente. Monsieur Serge Basté. Madame Nicole Chassagnard. J'ai vu Nicole. Et Madame Cathy Ricard. Bon, ils doivent peut-être être en route. Voilà, les pouvoirs, ils sont là. Bien, la première question appelle la nomination du secrétaire de séance. Il est proposé, en vertu du Code général des collectivités territoriales, de proposer M. Benoît Sanchez, qui s'abstient, qui est contre. Abstention de M. André, qui est contre. Dossier adopté à la majorité. Merci. Question suivante. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019. Il est proposé à l'Assemblée communautaire d'approuver le procès-verbal de cette séance. Y a-t-il des questions, Monsieur Massard?
Oui, Président. Merci. Je suis intervenu sur la question numéro 5 le 17 décembre lors du Conseil communautaire et je n'ai pas vu mon intervention figurer dans le rapport.
Oui, alors c'est tout à fait normal puisque dans le rapport ne figurent pas les interventions mais seulement les orientations de vote, figurent uniquement dans le procès-verbal audio les interventions de chaque conseiller communautaire, comme nous l'avons voté en séance du Conseil en début d'année 2019.
D'accord.
C'est pour ça que ça ne figure pas.
Très bien.
Et d'ailleurs, vous avez dû retrouver aucune intervention.
Donc le préfet n'a pas mon intervention
Si, il a celle du procès-verbal audio, qui est joint à la transmission.
Qui est figuré, d'accord, très bien.
Voilà,
merci.
Et qui est accessible en ligne.
Très bien, merci.
Je vous en prie. Constaté à la question 2, avant le vote, l'arrivée de Mme Ricard et de M. Basté. On va vous laisser vous installer avant de procéder au vote. On en était à la question sur le procès-verbal. Est-ce que, Madame, Monsieur, vous avez sur le procès-verbal, sur la question numéro 2? Je la soumets donc aux voix. Qui s'abstient? Le docteur André, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec M. Besnard et M. Massard. Question numéro 3, il s'agit d'une motion de soutien à la filière vigne et vin française. Chers collègues, j'ai proposé en réunion de bureau une motion suite au courrier de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin qu'on a reçu le 8 janvier 2020. Vous le savez, en octobre dernier, le président des États-Unis d'Amérique a imposé 7,5 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur un éventail de marchandises françaises. Il y avait le dossier Airbus, les avions français, et il y avait aussi la question de la vigne. Et donc les élus, l'association des élus de la vigne et du vin français, nous ont demandé de proposer une motion que je vous propose bien volontiers, qui est celle de proposer au Conseil communautaire de demander à M. le Président de la République française de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui s'annonce et qui serait la conséquence de décisions nationales, et notamment de réfléchir à une suspension provisoire de la taxe dite GAFA en vue de trouver un compromis à l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et de reconnaître à la filière vin le statut de victime dans le conflit Airbus et en conséquence de mettre en place un mécanisme simple et efficace d'indemnisation des entreprises et exploitations de la filière 20 touchées par les représailles américaines. C'est une décision qui avait été prise en octobre et qui impacte petit à petit, puisque vous savez que Airbus a été taxé de 10% de plus sur les frais de douane supplémentaires, mais le vin en France, dans ce territoire viticole, est frappé de 25% de plus de taxes supplémentaires sur les droits de douane aux États-Unis. Et donc la filière viticole nous a demandé de délibérer sur cette motion de soutien que je vous propose aujourd'hui, et j'imagine que vous avez des interventions. Y a-t-il des interventions à ce sujet, Monsieur Besnard ?
Merci. Évidemment que je vais voter cette motion. Je pense qu'aux yeux de tout le monde ici, je ne suis pas suspect de ne pas être l'un des chantres du patriotisme économique. Donc, soutenir une filière française, notamment la filière vinimiticole dans notre région, c'est une énorme évidence. Simplement, je me permets de faire remarquer que vous êtes en train de déplorer quelque chose dont vous chérissez les causes. Parce que ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard, est arrivé grâce à la politique gouvernementale que par ailleurs la plupart d'entre vous ici soutenez, et qui est d'une maladresse, pour ne pas dire quasiment de l'incompétence évidente, parce que Trump ne nous arrange pas, c'est une évidence, mais lui, il défend son pays. Or, nous, on s'y prend, pardonnez-moi la vulgarité, mais comme des manches, que empêtrés dans des directives européennes, plus un manque de volonté et de clarté dans la politique économique française, on a aujourd'hui une conséquence désastreuse de mesures qui ne datent pas d'hier, mais qui sont de pire en pire en matière de gestion de l'agriculture française en général, qui est en perdition absolue. La viticulture, qui était jusqu'à présent un tout petit peu moins chahutée que les céréaliers ou l'élevage, et aujourd'hui, la viticulture est gravement en péril. Voilà. Alors, je vote, mais ne nous faisons pas d'illusions. Quant à... vous avez formulé... par exemple, une demande au président de la République, je veux bien, mais enfin, dans la délibération, c'est la communauté de communes qui va faire tout ce qui est en son pouvoir. Le pouvoir de la communauté de communes, en l'espèce, il est nul. Et vous le savez aussi bien que moi.
Bien sûr.
Merci.
Non, juste vous répondre. Je vais vous répondre. Après, je laisserai la parole à notre collègue Serge Fury. J'entends ce que vous dites, Monsieur Besnard, mais finalement, c'est ce que vous répétez depuis de nombreuses années. Simplement rappeler que si Donald Trump défend les Américains, nous défendons les viticulteurs locaux, et que c'est pour cela que nous prenons cette motion et pas une délibération, puisqu'elle n'engage pas le Conseil communautaire qui n'a aucun pouvoir. Vous venez de le dire. Je rappelle juste que, contrairement à ce que vous dites, la décision du président des États-Unis d'Amérique est une décision qui est récente, puisqu'elle est sortie en octobre de l'année dernière, et elle touche non pas que la filière qui est la filière Airbus, ça a commencé par l'Airbus, ça a commencé par la filière viticole. Ça touche de manière globale l'Europe, puisque le parmesan italien est touché, et le whisky écossais également, et d'autres produits qui ont de la valeur ajoutée, qui sont très, très, très primés aux États-Unis. Donc aujourd'hui, très modestement, nous amenons une contribution pour faire en sorte que le débat soit porté au plus haut de l'État. Il manque en effet la disposition sur le président de la République, puisque quand on relit, on ne le voit pas, mais en aucun cas, je pensais que nous étions en capacité, nous, d'envoyer notre petite délibération à Washington pour dire « Maintenant, Donald, ça suffit, il faut que tu arrêtes tes bêtises. » Voilà. Donc on le fait comme tout le font, et on est en train de le structurer auprès d'une association nationale des élus de la vigne et du vin, dont le siège, M. Besnard, est à l'Université du vin à Suze-Larousse. Et c'est pour ça que nous avons, de cette association nationale, été sollicités, puisque nous sommes voisins. Voilà. Monsieur Fiori.
Je vais essayer d'être un peu plus clair que mon collègue Besnard en disant, mais enfin, Trump, Il ressemble un petit peu à ce que raconte le Rassemblement National, ou alors c'est que je comprends mal les choses. Monsieur, peut-être que je comprends mal les choses. Alors, moi j'en profite pour dire que le néolibéralisme, le capitalisme dans son stade actuel de son développement, ça peut amener un repli nationaliste dans à peu près tous les pays, ce qui va être catastrophique pour l'économie mondiale et ce qui va aider personne. Les positions, pour moi, Trump, il ne défend pas son pays, il défend un certain nombre de trusts dans son pays. Voilà, en gros. Hein. Donc, moi, j'en profite pour dire que tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai passé ma vie à essayer d'expliquer qu'on avait intérêt à ne pas être dans l'OTAN, on y est retourné, qu'on a intérêt non pas à s'opposer aux États-Unis, mais à être capable de se défendre sur nos bases économiques. La vigne, c'est très important. Je pense qu'Airbus l'est beaucoup plus pour notre équilibre, elle l'est beaucoup plus encore pour l'équilibre de la balance commerciale. Bon, une fois que j'ai dit ça, je m'arrête. J'aime bien les Américains, même si dans mes cours jadis j'ai toujours dit Washington, parce que j'ai jamais entendu un Américain dire autrement que Paris. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je me rappelle Lafayette, je me rappelle l'arrivée en 17, je sais notre histoire, mais c'est catastrophique le positionnement de la première puissance, encore militaire, économique, je ne sais pas, de moins en moins, c'est de moins en moins évident, mais le positionnement de la puissance américaine aux mains d'un, je ne sais pas comment l'appeler cet homme-là, j'ai dit à qui il ressemblait, dans notre hexagone. Alors bon, ben voilà, c'est catastrophique, et les catastrophes s'accumulent, que voulez-vous? À part de demander rigoureusement qu'on sorte de l'OTAN, parce que sinon un jour, bien de nouveau, comme le père de Gaulle l'avait compris, on va bien, selon les bêtises des Américains, prendre encore des bombes sur la tête alors qu'on n'y est pour rien. Je rappelle tout ça, parce que tout ça, c'est notre histoire, et les citoyens qui sont là peuvent s'en emparer. Et puis, je dis que je voterai votre motion, parce que il vaut mieux ça que rien.
Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Basté.
Oui, je vais également voter cette motion, mais il faudrait soutenir pas que la filière viticole, l'ensemble de l'agriculture. Mais je ne suis pas d'accord non plus avec M. Besnard qui dit que globalement l'agriculture est moribonde ou je ne sais pas trop quoi. Je crois qu'on a une agriculture française qui est performante. Le seul problème, c'est le système capitaliste qui a marchandisé l'ensemble des produits, y compris les produits alimentaires. Et aujourd'hui, on se trouve dans le choix de dire on soutient une filière viticole, mais on souhaite que la taxe GAFA en contrepartie soit arrêtée provisoirement, alors que parallèlement, on s'est battu pour que les GAFA, justement, soient taxés. Ce système-là, on est au bout. Et ce n'est pas l'agriculture qui est moribonde, c'est le système capitaliste. Et je crois qu'il faut en sortir une bonne fois pour toutes.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Vous avez eu la parole, monsieur Besnard. Non, mais vous avez eu la parole. Bon, allez-y. Votre micro.
Ça m'étonne quand même toujours qu'il soit en train de défendre des traités qui ne sont pas franchement favorables à l'agriculture française.
Bien. On ne va pas faire un débat sur l'agriculture, chers collègues. Mais allez, monsieur Basté, dernière intervention après je clôture.
On n'a pas eu de politique agricole réelle depuis les lois Pisani de 1962. Donc il serait grand temps qu'on en fasse et qu'on sorte de ce système que j'ai dit tout à l'heure où l'agriculture devient également un système d'échange contre Airbus, contre des choses comme ça. Ce n'est pas normal qu'on mette les produits alimentaires dans ce cadre-là. Voilà.
Merci. Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 4. Il s'agit d'une convention et le lycée agricole de Lille-sur-la-Sorgue pour Lille-Vieille. Monsieur Pérez.
Merci, Président. Je vous fais grâce à des considérants. Je vous fais un petit résumé de la situation sur un sujet un peu plus bucolique que le précédent. La communauté de communes assure, c'est un rappel, assure la maîtrise d'ouvrage d'un projet de préservation, de restauration fonctionnelle, de valorisation pédagogique du site naturel dit Marais des Lilles-Vieilles qui s'inscrit dans les compétences actuelles en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien et de restauration des cours d'eau et des milieux aquatiques, qui rentrent sous la compétence, évidemment, GEMAPI. Ce secteur dit Marais de Livier est formé d'un complexe de zones humides situées sur la commune de Mondragon, à la croisée du Vieux-Rhône non remanié et du canal court-circuité de Donzère-Mondragon. Cette mosaïque d'habitats majoritairement humides est le lieu d'expression d'une faune, d'une flore et d'habitats naturels riches et remarquables. Ceci pour le rappel. Certains secteurs de cette zone ont été laissés en friche et depuis 3 ans, un accord a été passé avec un berger qui vient sur le site en début de printemps avec un troupeau d'ovins, caprins, afin de maintenir le milieu ouvert. Après 3 ans d'un pâturage extensif, il est nécessaire d'intervenir mécaniquement sur les refus qui se densifient d'année en année de manière à maintenir le milieu ouvert et diversifié. Donc l'objectif de la convention qui est jointe au dossier d'aujourd'hui est de financer une fauche mécanique qui viendrait compléter cette gestion pastorale tout en encourageant la diversification des espèces floristiques. Elle favorisera également la maîtrise des espèces exotiques envahissantes dont la dynamique de développement est importante sur le site. Afin d'intervenir de manière rapide, donc, un partenariat est envisagé avec le lycée professionnel La Ricarde de Sorgues, qui pourrait être mis en place pour intervenir dès ce mois de mars. Des travaux que le lycée peut inscrire dans le processus de mise en œuvre de ses programmes de formation, notamment du CAP Travaux forestiers. Le lycée technique réaliserait alors des travaux d'entretien de la végétation sur les parcelles 21, 24, 25, 26, 31 du secteur de l'île Vieille sur la commune de Mondragon. En contrepartie de cette activité, les élèves ne percevront aucune rémunération individuelle. Il est convenu entre les parties que la réalisation de ces travaux donnera lieu au versement par la communauté de communes Rhône-Alès-Provence au lycée technique une indemnité forfaitaire de 500 €, soit un montant de 250 € par jour de travail. Ce montant permettra de couvrir essentiellement les frais de mise en œuvre du chantier, déplacement, carburant. Donc il est proposé au conseil communautaire d'adopter le projet de convention à passer avec le lycée La Ricarde pour des travaux d'abattage moyennant une participation financière de 250 € par jour de travail. On a tous fait le calcul, 2 jours sont concernés. Il est proposé au conseil de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget primitif du budget principal 2020 aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention, à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires s'y rapportant. Président.
Merci Monsieur Pérez. Juste vous rajouter que c'est le Conservatoire des espaces naturels qui nous a proposé au dernier moment cette convention avec le lycée La Ricarde à Lille-sur-la-Sorgue. J'ai absolument rien contre le lycée La Ricarde à Lille-sur-la-Sorgue, mais il me semble qu'à Bellevue au Charagon, nous avons la maison familiale et rurale qui aurait pu faire cette mission, et donc que j'ai demandé à ce que l'année prochaine, ce soit la maison familiale et rurale qui puisse faire ça avec des jeunes du territoire plutôt que Lille-sur-la-Sorgue. Je voulais le préciser. Mais la précipitation du conservatoire fait qu'aujourd'hui, pour le mois de mars, nous n'avons pas pu modifier la trajectoire. Voilà. Je voulais juste le préciser avant de le soumettre au vote. Madame Ricard.
Oui, Président. Enfin, bon, l'île sur la Sorgue, ce n'est pas les États-Unis non plus. Ce n'est pas très loin. En dehors de cette plaisanterie, dans ce travail de coupe, d'après ce que j'ai compris, donc, est-ce qu'il y a eu qui a dirigé le choix des coupes qui va être fait, est-ce qu'il y a un plan de coupe, de savoir quelles espèces vont être supprimées et qui a conduit ça?
Alors ça, c'est le Conservatoire des espaces naturels en lien avec les espaces naturels sensibles pilotés par le département de Vaucluse. Il y a un responsable qui est Monsieur Landru, qui est responsable de ce projet, de ce programme, et qui a la charge de piloter, vous savez, cette belle réserve que l'on veut faire à Mondragon de 260 hectares, et donc qui a fait toutes les études faune-flore pour savoir quelle espèce. Voilà, donc on dépend du parc naturel régional de Camargue, puisque le parc naturel régional de Camargue vient jusque sur cet espace remarquable, Natura 2000, qui est à Mondragon, au bras à l'île Vieille, et c'est un programme qui est très très sérieux à la fois sur faune-flore, je dirais, dans le milieu aquatique et sur terre. Donc Monsieur Pérez, vice-président en charge de l'environnement et rapporteur de cette question, parce que c'est lui qui pilote avec notre agent responsable du service environnement ce sujet-là, mais c'est aujourd'hui très très chapeauté par les espaces naturels sensibles que le département a voté et le Conservatoire des espaces naturels qui est piloté par le parc naturel régional de Camargue, dont le président, je ne sais plus qui, Je crois que c'est Martigues, le président est un élu de Martigues, voilà. Et il vient se réunir ici, sous la houlette de Jean Le Bègue, qui pilote ça et qui est un élu de Mondragon, voilà. Et Bruna Romagnini, qui est à l'Office national des forêts. Oui, bien sûr. Ouais, oui, oui. En fait, c'est dans le cadre de la mise en place d'un plan de gestion. Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 5, il s'agit de la désaffectation de biens mis à disposition au titre de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères et assimilées. Monsieur Perron.
Oui, je vais faire comme mon collègue Pérez. Je vais vous faire sur le code général et toutes les considérants. Donc, vu les délibérations du 28 novembre 2017 du Conseil communautaire approuvant les procès-verbaux de mise à disposition des biens de la commune de Mondragon et de Mornas au titre du transfert de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Considérant que certains biens mobiliers, bacs de collecte mis à disposition sont désormais hors service et doivent être désaffectés et mis au rebut, considérant la désaffection donc nécessaire des biens suivants, donc 6 bacs de 660 litres et 4 bacs de 360 litres mis à disposition par la commune de Mornas, plus 8 bacs de 660 litres mis à disposition par la commune de Mondragon, considérant que cette opération constitue une opération d'ordre non budgétaire au titre de mandat ne sera pas émis. Donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver la désaffectation de ces biens mis à disposition par la commune de Mornas et de Mondragon, tel que cité ci-dessus. Il autorise bien entendu, monsieur le président, à signer les annexes des PV et de mise à disposition, mise à jour et jointe à la présente délibération.
Merci. Donc il s'agit d'une régularisation. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 6. Il s'agit d'un avenant au dispositif d'aide au permis de conduire. Monsieur Dussargues.
Oui, Président. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code des relations entre le public et l'administration, la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes D2019-35 du 9 avril 2019 qui a approuvé les modalités techniques et financières d'attribution de la bourse au permis de conduire automobile versé directement à et auto-école du territoire Rhône-Lès-Provence, dispensatrice de la formation et fixant le montant de cette bourse à 500 euros ainsi qu'une enveloppe annuelle de 10 000 euros pour l'année 2019. Le bureau communautaire réuni le 28 janvier 2020 a émis un avis favorable en considérant que la communauté de communes Rhône-Lès-Provence a proposé d'aider 20 jeunes pour l'année 2019 et 20 pour l'année 2020 pour un montant de 500 euros par permis, soit une enveloppe financière d'aide globale de 10 000 euros en 2019 et 10 000 en 2020. Considérant la mise en place du dispositif à milieu d'année, considérant que 10 dossiers ont reçu un avis favorable en 2019, et que seuls 5 bénéficiaires ont reçu la bourse d'un montant de 500 euros, soit un montant global de 2500 euros pour 2019. En considérant la volonté de reporter le solde de l'enveloppe non consommée en 2019 sur l'exercice 2020, il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le report de ce solde 2019 sur le budget 2020, de fixer l'enveloppe annuelle de 17 500 pour l'année 2020 et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer l'ensemble des actes ci rapportables.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 7. Il s'agit d'une convention de mise à disposition et le lycée Lucie Aubrac dans le cadre du Forum de l'emploi d'avril prochain. Monsieur Dussargues.
Oui, vu l'avis favorable du bureau communautaire réuni le 28 janvier 2020,
vu le projet de convention d'occupation du lycée Lucie Aubrac tel qu'annexé à la présente délibération. En considérant que la communauté de communes Rhône-Alès-Provence, en partenariat avec les différentes structures intervenantes sur le territoire en faveur de l'emploi, organisera les 15 et 16 avril 2020 le forum intercommunal de l'emploi. Ce forum annuel est destiné à accueillir toutes les personnes en recherche d'emploi, de formation, ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise. Cet événement sera l'occasion de réunir des entreprises qui recrutent et de centraliser des offres d'emploi. Considérant que le projet de convention de mise à disposition présente les caractéristiques suivantes, soit la mise à disposition concerne l'occupation des locaux du lycée Lucie Aubrac à Bolène, ce dernier ayant accepté d'accueillir ce forum de l'emploi intercommunal de l'année 2020. La mise à disposition est consentie à titre temporaire, précaire et révocable. La mise à disposition est consentie pour un montant total de 1 200 euros. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter le projet de convention à passer avec le Conseil régional et le lycée Lucie Aubrac, jointe à la présente délibération, pour la mise à disposition des locaux les 15 et 16 avril 2020, moyennant une participation financière de 1 200 euros, et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget primitif du budget principal 2020 aux natures et fonctions prévues à cet effet. Enfin, d'autoriser M. le Président à signer la convention à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires s'y rapportant.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Massard.
Oui, merci Président. Pour le forum de l'emploi, est-ce qu'il y aura une partie qui concerne l'apprentissage, car c'est quelque chose qui fonctionne assez bien depuis que ça a été mis en place. Et c'est vrai que les entreprises, il faut qu'elles soient sensibles au fait qu'elles peuvent intégrer du personnel de qualité par le biais de l'apprentissage, plus que par l'intérim ou par d'autres biais. Donc je pense que à la fois sensibiliser les entreprises qui vont être présentes, mais aussi tous ceux qui veulent et qui cherchent un emploi et qui désireraient effectivement découvrir un nouveau métier.
Juste peut-être vous préciser d'abord que le forum de l'emploi prendra un caractère un peu particulier cette année puisqu'il était sur une matinée, il sera sur une journée entière et il prendra une autre tournure parce que ce forum il est utile malheureusement hein, puisqu'on voit qu'il y a le nombre de personnes qui sont de plus en plus présentes dans ce forum et il va prendre une autre tournure aussi parce qu'il va y avoir les emplois d'été, il va y avoir, vous avez dit, la formation et puis il va y avoir les emplois avec les groupes qui viennent, mais ce forum n'est utile que s'il est complémentaire d'autres forums et avec le maire de Mondragon, on accueillait il y a 10 jours le forum sud nucléaire à Mondragon, qui a été un vrai succès, et qui vient dans une niche comme le nucléaire apporter aussi des réponses un peu avant. C'est vrai que moi je dis qu'il faut savoir si ce forum il est utile ou pas. Il l'est. Le mois d'avril, des fois, pour recruter pour l'été, c'est un peu tard. Mais en même temps, il est utile parce que des jeunes viennent pour faire en sorte de trouver des emplois d'été. Il mérite d'être toujours amélioré. C'est pour ça qu'il est sur une journée désormais et qu'il est voilà. Bon, mon grand regret, c'est qu'il nous coûte si cher cette année, alors qu'il nous coûtait beaucoup moins cher l'année dernière. Mais c'est un équipement de la région, c'est l'approviseur qui a décidé et on ne peut que le respecter. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 8, il s'agit de cession de parcelles intercommunales, quartier Le Quéron, sur la commune de Mondragon. Monsieur Dussargues.
Oui, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2241-1 et L22122-1, vu l'avis des domaines rendu le 16 décembre 2019, vu l'avis du bureau communautaire réuni le 19 juin 2018, et considérant la formule formulée, la demande formulée par la SCI CLEM, représentée par M. Vincent Touchat en date du 22 janvier 2020, sollicitant l'acquisition de 10 000 m2 sur les parcelles cadastrées zone industrielle 146, 99 et 98, situées sur la commune de Mondragon, quartier Le Quéron et appartenant à la communauté de communes Rhône-Alès-Provence. Considérant la nécessité de redécouper les parcelles intercommunales afin d'en détacher une parcelle de 10 000 m2 et sous réserve du document d'arpentage à intervenir, il est donc proposé au Conseil. conseil communautaire ont autorisé la cession de 10 000 m2 suivant le document d'arpentage à intervenir sur les parcelles intercommunales cadastrées ZIZAD industriel 146, 99 et 98 à Mondragon, au tarif de 12 euros le mètre carré, de préciser que les frais d'acte de division et numérotation de la nouvelle parcelle seront à la charge de la communauté de communes Rhône-Alpes-Provence et que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur, afin d'autoriser le président à signer l'acte à intervenir et tout document afférent à cette vente.
Merci, monsieur Dussargues. Y a-t-il des questions ? J'aimerais juste faire remarquer, mais je pense qu'à ceux que je voulais le faire remarquer, ils n'ont pas eu assez de courage, mais vous dire que la gestion et la vente et la cession de ces parcelles intercommunales quartier Le Quiron, qui n'est pas loin de la Zande, montrent à la fois la bonne gestion et, je dirais, la gestion saine de la collectivité, puisque ces parcelles ont été achetées 7,62 euros, les domaines en estimés 8 euros, et nous les vendons 12 euros. S'il en est, encore une fois, la démonstration de la façon dont on gère. J'attendais du vice-président de l'Interco une intervention, mais il a préféré briller par son absence. Mais je voulais juste vous préciser quand même que tous les dossiers que nous avons gérés sur toutes les zones d'activité ont été gérés de la sorte, et donc je voulais vous le redire aujourd'hui pour ce dossier-là. Qui s'abstient ? Monsieur Bastier, je vous en prie.
Que ces terrains ne sont pas constructibles et inondables, donc ça a été une très bonne affaire d'avoir vendu à ce prix-là.
Très bien. Monsieur Bastier.
Oui. Moi, j'aurais juste une remarque, c'est que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi des sujets concernant l'activité économique ne passent pas en commission économique. On n'a déjà pas de commission, ça fait des sujets sur lesquels on pourrait éventuellement débattre, quoi. Donc, voilà, c'est. Alors maintenant, c'est un peu tard pour changer, hein, mais.
Non, mais j'entends.
Mais ça sera un de mes grands regrets, quoi, avoir passé 6 commissions par an d'un quart d'heure pour aucun sujet en débat, quoi.
Bien, écoutez, j'entends ce que vous dites. Moi, je veux juste vous préciser que nous avons, sur cette session-là, dans le cadre du PPR du Rhône, fait une très belle affaire sur ce projet. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Massard.
Juste pour confirmer que ce que vient de dire Monsieur Basset, c'est ça ? Basset ? Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il le manifeste, dans le sens... où c'est vrai qu'on devrait collaborer dans les commissions pour faire évoluer les choses de façon intelligente. Et quand on n'est pas au courant, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Merci.
Y a-t-il d'autres questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 9. Il s'agit donc du préambule au débat d'orientation budgétaire. Je présente cette délibération. C'est le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous savez que la loi impose, dans une note que nous devons avoir, de vous présenter pour les collectivités de plus de 20 000 habitants un rapport vous présentant le rapport d'égalité entre les femmes et les hommes qui travaillent dans les collectivités. Et donc nous faisons comme chaque année, merci, nous faisons comme chaque année. Nous nous illustrons par l'inverse des autres collectivités. Il y a 64% de femmes dans cette collectivité et 36% d'hommes. Et puis les femmes sont celles qui détiennent le plus de postes à responsabilité puisqu'il n'y a que des directrices. Le décret du 24 juin 2015 prévoit que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. J'espère que les agents hommes ne déposeront pas au tribunal administratif une procédure pour voir l'égalité de leur côté, pencher de leur côté. Le président présente donc aux membres du conseil communautaire le présent rapport concernant le fonctionnement de la communauté de communes. Lors de cette réunion, vous avez l'ensemble des éléments qui sont précisés. Simplement, vous dire quelques mots. Donc, 146 agents, 94 femmes, 52 hommes et 77% des postes sont à temps complet. C'est quand même assez remarquable, c'est-à-dire qu'on n'entretient pas la précarité puisque la majorité des postes sont à temps complet. C'était bon de le rappeler. Voilà. S'il y a des questions, j'y réponds. La directrice générale, Monsieur Massard.
Oui, juste pour aller dans le sens du succès que vous avez obtenu. C'est-à-dire que la seule chose que je regrette, c'est que dans les critères, il n'y a jamais compétences et expérience professionnelle. Ce n'est pas seulement pour les vôtres. Hein, en général, je crois que c'est national même. Donc c'est un peu dommage parce que peut-être que les femmes seraient encore plus supérieures au nombre qu'elles sont aujourd'hui. Merci.
C'est les règles de la parité, Monsieur Massard. Madame Ricard.
C'était le mot qu'il ne fallait pas prononcer, président, parité.
Oui.
Parce que si on peut se féliciter sur le territoire au niveau des agents de cette répartition, puisqu'on le répète chaque année dans chaque rapport, je répéterai donc ce que je dis depuis plusieurs années, puisqu'on répète beaucoup de choses ici. C'est vraiment dommage de voir cette jolie brochette purement masculine que sont les élus qui se répartissent les postes de vice-présidence et de présidence.
Et je vous répondrai...
Nous ne sommes donc pas un modèle en la matière sur le territoire.
Et nous sommes un modèle parfait, puisque nous avons 15 femmes et 15 hommes qui siègent dans ce conseil communautaire, à la parité parfaite, et la démocratie veut qu'il y ait une femme ou un homme qui soit candidat à la fonction de maire, et que c'est cette règle-là qui est discriminante pour ce qui concerne les élections au sein du conseil communautaire. C'est donc la démocratie qui fait respecter la parité. Et s'il y avait eu d'autres applications de la loi avec des candidates maires ou autres, il y aurait d'autres responsabilités à d'autres personnes. Et il ne s'agit en aucun cas d'une application de la parité, mais simplement de l'application de la démocratie sur une assemblée qui est paritaire et qui compte 15 femmes, 15 hommes, avec un président ou une présidente, si c'était le cas, et comme d'ailleurs toutes les listes municipales et intercommunales l'imposent. Voilà. Votre micro.
Même si ce n'est pas enregistré, ce n'est pas très grave, tout le monde peut le constater, ce que je dis. Mais vous avez des communes qui sont représentées par deux fois sur des postes de vice-présidence et il n'y a pas pour autant de parité. Il aurait pu y avoir un choix d'y mettre effectivement le maire qui est un homme et un deuxième vice-président pour la même commune, mais qui soit une femme.
C'est vrai. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Bastet.
Juste pour mon information concernant ce rapport, oui. Se met en place pour les entreprises à partir de 2020 un indice parité, enfin, d'égalité hommes-femmes,
oui.
Avec un tas de calculs bien savants, mais qui prend aussi non seulement en compte le nombre de personnes en fonction des postes, mais la façon dont elles sont traitées dans l'entreprise, notamment les augmentations de salaire, les choses comme ça, par rapport à... Est-ce que c'est la même chose pour les collectivités ? Parce que ça... On peut des fois avoir un certain nombre de surprises concernant, effectivement, il peut y avoir des entreprises où il y a beaucoup de femmes, où elles sont à des postes, mais où elles sont traitées complètement à l'opposé de ce que pourrait être traité un homme au même poste. Donc c'est important de regarder tous ces critères-là.
Oui. Et je vais vous répondre de suite, puisque ma directrice générale m'a dit que la question ne se pose pas dans la fonction publique, puisque chaque agent, qu'il soit femme ou homme, répond à une grille indiciaire, à une catégorie, à un échelon, qui lui fixe un salaire, quel que soit... son sexe, quelle que soit son origine et quelle que soit, je dirais, sa confession et sa couleur de peau.
Oui, donc dans les entreprises, il y a des conventions collectives aussi. N'empêche qu'il y a quand même des femmes de retour de congé de maternité, par exemple, qui n'ont pas les augmentations qui leur sont
dues. C'est la différence avec le privé. Parce que dans le public, que vous soyez catégorisé à le 8e échelon, à tel grade, avec tel coefficient, vous touchez la même chose que vous soyez un homme ou une femme. Et vous touchez ça en fonction des échelons et c'est piloté par le centre de gestion à Avignon, qui pilote ses évolutions de carrière. Donc nous, je dirais, on n'a pas à voir là. Et d'ailleurs, si vous êtes catégorisé, vous pouvez atteindre un certain niveau de salaire que vous ne pouvez, qui est un plafond que vous ne pouvez pas dépasser que si vous passez un concours pour passer catégorie B, et etc. Donc là-dessus, sur les salaires, c'est très cadré. Voilà. Mais j'entends ce que vous dites. C'est pas mal, le service public. Oui. C'est vrai. Y a-t-il d'autres interventions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question suivante, il s'agit du débat d'orientation budgétaire dont je suppose qu'il durera moins longtemps que l'année dernière.
Allez savoir. Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit rappel sur le calendrier budgétaire, hein, puisque l'année d'un renouvellement électoral, on doit voter le budget de la communauté de communes avant le 30 avril, et qu'au regard de ce qui se passera les 15 et 22 mars, notre conseil communautaire ne sera installé au mieux que le 7 avril, et qu'il était mathématiquement impossible de tenir entre le 7 avril et le 30 avril, trois séances du conseil communautaire qui viseraient à la fois l'installation, le DOB et le vote du budget. Donc on est bien sur cet aspect-là où il appartenait à notre majorité de discuter du DOB et dans la foulée, on regarde la légitimité, ce qu'on puisse aussi en discuter. On est sur donc un débat qui sera un préalable au vote du budget qui devrait se tenir de mémoire le 3 mars. Je vous fais grâce dans ce débat d'orientation budgétaire de l'ensemble du contexte national, juste en peut-être en rappelant quand même qu'il est sans doute plus favorable que ce qu'il ne pouvait être les années précédentes, mais qu'il est quand même aussi plus incertain pour nos collectivités, hein, je pense notamment avec tout ce qui se passe au travers de la suppression de la taxe d'habitation, qui est une bonne chose pour nos administrés, mais qui pose des questions à nos collectivités sur le maintien à terme des compensations, qui dit compensation pour la taxe d'habitation pour les communes, vient aussi bouleverser les modalités de compensation pour les communautés de communes, où aujourd'hui la loi de finances dit un certain nombre de choses, mais sans qu'on puisse y voir de manière certaine des engagements durables, et de la même façon que pèsent encore certaines doutes sur le maintien de la dotation générale de fonctionnement ou des différents mécanismes de péréquation. J'ai fait hier l'exercice d'aller regarder un petit peu ce qui s'était passé dans les DOB, enfin, lors de nos séances précédentes en 2016-2017, et j'ai aussi écouté la séance de l'année dernière. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas écouté en totalité parce que déjà ça durait 2 heures de débat d'orientation budgétaire, et j'imaginais qu'on entendrait ce soir les mêmes choses que j'avais écoutées, donc voilà, je m'étais intéressé au préalable. C'était pour vous faire un petit peu un rappel et qui correspond à l'évolution des compétences que notre communauté de communes a récupérées depuis 2017, hein, soit imposées par la loi, hein, transfert de la compétence ordures ménagères, l'aire d'accueil des gens du voyage, le volet tourisme, ou des transferts des compétences que, enfin, GEMAPI par la suite, ou des compétences que l'on a souhaité, hein, au regard, je pense notamment le triptyque équipements, les équipements scolaires, culturels, sportifs et la voirie. En 2016-2017, et c'était essentiellement M. Morand qui était le contradicteur, on reprochait à notre communauté de communes d'avoir un fonds de roulement qui était conséquent de vingtaine de millions d'euros en s'offusquant que la communauté de communes ne faisait rien. Mais dans le même temps, avec le constat, c'est qu'on n'arrivait pas à assurer un transfert de compétences cohérent qui permettait de mettre en avant un projet de territoire. Le débat de l'année dernière, c'était au contraire de crier au loup en considérant que la communauté de communes était dispendieuse dans ses dépenses, mettait en péril à terme le devenir de ses structures en suspectant une inflation, je ne vais pas dire exponentielle, exagérée des dépenses de fonctionnement, qui irait de mal en pis, qui se traduirait par un coefficient d'autofinancement, une capacité d'autofinancement qui ne serait pas liée à une année difficile, mais qui serait dans la durée, et l'incapacité qu'aurait la communauté de communes à venir souscrire des emprunts, etc. Je vous renvoie au premier tableau, qui est la page 14, résultat de l'exercice en section de fonctionnement, 2,4 millions. Ça signifie, si je le traduis, c'est qu'on a encaissé en 2019 davantage de recettes de fonctionnement que les dépenses de fonctionnement que l'on a pu générer. On garde aussi ce que je vous indiquais, les transferts de compétences qu'on a pu opérer se sont traduits, on va le garder en mémoire, et c'est le cumul des charges. Alors chaque fois, enfin aussi en termes de rappel, chaque fois qu'on transfère une compétence d'une commune à la communauté de communes, la CLEC, Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui est composée de 2 membres représentant chaque commune et qui ne sont pas forcément des élus communautaires, est chargée d'évaluer quel est le coût de ce transfert, à la fois en termes de dépenses de fonctionnement, mais aussi en dépenses d'investissement, avec le corollaire, c'est qu'un transfert de compétences s'accompagne du transfert des personnels de la commune vers la communauté de communes pour les personnels qui assuraient ces fonctions, et dans le même temps, le transfert des moyens financiers, et on vient le compenser en diminuant l'attribution de compensation que l'on verse à ces communes. Bilan de ces transferts de compétences successifs, hein, donc depuis 2017, 2018, 2019, évaluation des charges de dépenses de fonctionnement, 3,4 millions. C'est-à-dire que depuis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, au regard des transferts de compétences qui ont été approuvés par les communes et la communauté de communes, la communauté de communes se retrouve à gréver d'une dépense supplémentaire à minima de 3,4 millions, qui peut être supérieure au regard d'adhésion qu'on peut avoir dans différentes structures ou la volonté qu'a pu avoir la communauté de communes d'optimiser et d'être plus loin dans la mise en œuvre de ces dispositions. On garde aussi à l'esprit, et c'est un choix qui a été assumé par chacune des 5 communes, membres de la communauté de communes, et aussi par la communauté de communes, c'est que le transfert de ces compétences, s'agissant des dépenses d'investissement, s'est concrétisé par une évaluation définie à zéro. Ça veut dire qu'on aurait pu le traduire différemment, et c'est ce qui se passe dans toutes les communautés de communes. Je prends l'exemple des travaux qui ont pu être faits dans les écoles ou à la piscine. Dans d'autres communautés de communes, le montant a été évalué, 2-3 millions, et considéré que ces 3 millions-là devaient être déduits de l'attribution que l'on verse à la commune en l'étalant sur une durée que la loi définit. De la même façon, travaux de protection contre les inondations ou demain définition des systèmes d'endiguement sur le Rhône, le Lèze, le Lauzon, on aurait pu aussi dire aujourd'hui il y a des études qui définissent un programme de travaux à l'horizon de 15 millions d'euros et on va venir étaler ces 15 millions d'euros sur 10 ans. Le choix qui a été fait par la CLECT et validé par les communautés de communes, pour autant qu'elles l'aient délibéré, c'est qu'on ne prend pas en compte, enfin c'est que la communauté de communes prend en totalité à sa charge, sans que ça soit compensé, la totalité des dépenses d'investissement. Donc bien évidemment, quand on vient cumuler ces 3,4 millions de fonctionnement qui, elles, ont été neutralisées au travers des attributions de compensation diminuées, par contre, les dépenses d'investissement, c'est, entre guillemets, je fais court, cash et en totalité pour la communauté de communes. Si on s'intéresse à l'évolution des dépenses de fonctionnement, tableau que vous avez en bas de la page 14, ce qu'on constate, c'est qu'au travers de... Donc on a un pic d'augmentation en 2017 qui correspond au début de ces transferts de compétences. Entre 2017, 2018, 2019, on est sur un montant qui est aujourd'hui à peu près constant de 29 millions. Avec chaque fois ce mécanisme, nos charges à caractère général augmentent puisque c'est à la prise en compte des nouvelles compétences et dans le même temps, le chapitre 14 qui correspond à ce qu'on reverse aux communautés de communes diminue à minima d'autant. Et c'est là qu'on constate que de temps en temps, on n'a pas diminué d'autant et je pense notamment au travers de transferts de personnel qui ont pu être faits alors que les agents n'étaient pas sans doute les plus performants. On garde toujours à l'esprit que le poste de dépense le plus important pour notre communauté de communes, c'est ce qu'on reverse aux communes, avec une petite erreur, je crois, de total dans la page 15. Hein, ce n'est pas 17 millions qu'il faudrait lire, mais 14 millions 5. Donc aujourd'hui, c'est le poste principal de dépense, c'est-à-dire que la communauté de communes, en 2019, a reversé aux communes, et 83% de ce montant à l'attention de la commune de Bologne, et c'est sans doute normal au regard de la structure et du passé. Il y a donc 14,5 millions qui est reversé en 2019 aux différentes communes pour faire face. Et c'est là qu'on peut s'intéresser à ce que représente cette recette dans les budgets de chaque commune. Et là, pour le coup, tout le monde ne perçoit pas... le ratio n'est pas forcément le même. Il ne doit pas être loin de 40% à Bolène quand il est de moins de 10% à la Palue. Et je pense que si M. Morin avait été là ce soir, on aurait sans doute entendu ce débat en disant qu'il convient de revoir les règles de fonctionnement et de distribution, d'évaluation des charges, avec en conséquence, ce qui est demandé de manière implicite, c'est qu'on revoit ça pour arriver à donner davantage à la commune de Bolène. Et c'est aussi, je pense, un des points principaux qu'on a réussi à mettre en œuvre sur ce mandat-là et qu'il faut arriver à faire perdurer, c'est aussi ce principe de solidarité qui doit s'appliquer à l'échelle d'un territoire. Si l'ensemble des recettes qui aujourd'hui, on ne l'oublie pas, sur notre territoire proviennent essentiellement des contributions des acteurs économiques, soit au travers de la fiscalité que l'on fixe, soit au travers de la fiscalité imposée par l'État, mais quand 90% de ces recettes proviennent des 10 plus gros acteurs liés au nucléaire, liés aux autoroutes, liés à la CNR, c'est-à-dire des gens qui ou des structures qui impactent ou qui font vivre l'ensemble du territoire, est-ce qu'il est normal et raisonnable que demain, là où on a aujourd'hui 83% des recettes qui sont versées à Bolène, demain ça soit 90 ou 95 au travers du mode de calcul qui doit être fait? Je ne suis pas certain, parce que sinon que devient la mode du Rhône si on revoit à la baisse la structure ou demain la commune de la Palue qui, au regard de sa situation territoriale, est dans la capacité à installer, à venir voir sur son territoire aucune entreprise s'installer. S'agissant des recettes de fonctionnement, dans la même façon que nos dépenses de fonctionnement étaient stables, on est sur des recettes de fonctionnement qui sont aujourd'hui stabilisées de l'ordre de 30 millions d'euros, avec des fluctuations qui ont pu s'opérer en 2019 à la faveur de certains recalculs ou certaines redispositions qui ont été prises par les services de l'État quand ils viennent définir les bases locatives. S'agissant de la gestion de la dette, si pendant très longtemps notre structure n'avait pas d'emprunt, on l'évoquera tout à l'heure dans des questions, dans une question qui va suivre. Aujourd'hui, 5 emprunts qui affectent pour des montants modiques le budget de notre communauté de communes au travers d'emprunts qui avaient été souscrits soit par les communes, on l'évoquera tout à l'heure, soit par le syndicat des digues, et que la communauté de communes a hérité en faveur des transferts de compétences. On prend l'ensemble des charges et les emprunts en font partie. Le point qui est intéressant, c'est celui qui concerne la définition de l'épargne brute, c'est-à-dire la capacité à générer ce qu'on va appeler un fonds de roulement qui, de manière durable, permet d'assurer le financement des investissements qui vont suivre, mais aussi qui permet de peser de manière forte quand on doit discuter avec des interlocuteurs, quels qu'ils soient, banquiers ou autres. Et c'était là que M. Morand, avec l'insécurité, enfin, en termes de rappel, 2019 était une année singulière, c'est qu'on avait supporté au travers de ces années-là la totalité de la charge de certaines compétences transférées alors que les attributions de compensation n'avaient pas été recalculées. C'était un peu l'effet de double peine. La communauté de communes supportait à la fois la dépense, mais avait aussi reversé les fonds aux communes sans les avoir en retour. Et c'est ce que nous promettait M. Morand en disant vous allez finir à moins 600 000 de capacité d'autofinancement, voire plus. 2019, on est sur une capacité d'autofinancement de 2,4 millions. Ça soit des montants qui soient supérieurs à ce qu'ils étaient en 2017 avant qu'on opère le transfert des champs. Voilà. Enfin, ça signifie pas tout, mais ça parle quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et cette CAF, comment on la génère, hein, c'est pour générer de la capacité d'autofinancement, soit il faut augmenter les recettes, soit il faut diminuer les dépenses. Les recettes, on en a vite fait le tour. Hein, les dotations de l'État, tout le monde sait ce qu'il sait, il n'y en a plus. Soit on joue sur la fiscalité, on a décidé de ne pas jouer sur la fiscalité, donc nos recettes sont ce qu'elles sont. Si on veut dégager de la capacité d'autofinancement, il faut donc maîtriser les dépenses à un niveau, et c'est ce qu'on s'est attelé à venir faire sur 2018-2019, et vous le verrez dans les orientations 2020. S'agissant des dépenses d'investissement, donc les gros travaux, en 2013, vous avez le détail, un montant de dépenses de 12,8 millions, il était de 13,2 millions en 12,8 millions en 2019, il était 13,2 millions en 2018. On est sur des montants similaires. Si je prends en compte à la fois ce qui a été réellement engagé et les restes réalisés, c'est-à-dire la partie qui a déjà été faite mais qui n'a pas été finie d'être payée au regard du calendrier budgétaire, c'est environ 2 millions qui ont été investis sur tout ce qui concerne le secteur économique, hein, achat de terrain, aménagement de zone, Servat, ce qui se passe sur le volet de la croisière. S'agissant du volet déchets, 700 000 euros qui ont été engagés à la fois sur les premières étapes de la déchetterie que porte Christian Perron et tout le travail qui a été fait de développement du tri sélectif de l'équipement. C'est près de 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros qui ont été injectés dans tous les travaux de sécurisation, de rénovation du volet des établissements scolaires sur l'ensemble des 5 communes du territoire, des 4, pardon, Rodolphe. S'agissant du volet environnemental, on en a un petit peu parlé précédemment au travers de l'île Vieille, mais aussi sur le volet GEMAPI, c'est un peu plus d'un million d'euros sur l'exercice 2019, et c'est près de 2 millions d'euros sur le reste du triptyque, les équipements sportifs, culturels et tout le volet voirie. Dans ces 12,8 millions d'euros, la part des fonds de concours, c'est 2,3 millions. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est injectée auprès des communes, qui, elles, se retrouvent main d'ouvrage, mais la communauté de communes assure à assurer la pleine charge de sa part. Juste un petit mot sur les fonds de concours. Vous verrez encore des crédits ouverts sur l'exercice 2020. C'est pour venir laisser le temps aux communes de venir appeler les fonds au travers des travaux réalisés. Ça se traduit au travers de ces 10 millions d'euros, ces 20 millions d'euros qui ont été injectés dans le tissu, enfin, qui ont été rendus à la population, hein, de façon à répondre à leurs besoins en termes d'équipement. Enfin, c'est sans doute un regret, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui a permis à un moment donné de faire en sorte qu'on arrête de thésauriser ces 20 millions et qu'on arrive à s'en servir et les injecter sur le territoire, et qu'on aurait sans doute, il aurait sans doute été préférable de travailler sur des transferts de compétences ou de la mutualisation. C'est ce qui aurait sans doute permis de garantir un projet sans doute plus cohérent que ces transferts que l'on a fait chacun, enfin chaque commune en fonction de son intérêt, sans forcément il y ait des relations à l'échelle du territoire, mais voilà, on ne réparera pas ce volet-là, et c'est sans doute comment on doit s'attacher sur le mandat suivant, au travers des transferts qui ont été opérés, on n'en imagine sans doute pas d'autres, mettre du sens dans ces relations entre l'Interco et les communes, et travailler sans doute un peu plus sur la mutualisation. S'agissant des recettes d'investissement, elles sont à hauteur de 6,8 millions en 2019, hein, donc très largement en dessous des dépenses d'investissement. On est à la fois sur le fait que de moins en moins de gens financent, que les subventions arrivent aussi en décalage par rapport à la réalisation de ces travaux-là. Donc on devrait sans doute avoir un appel de recettes plus important en 2020 qu'en 2019. Vous avez dans la suite une description rapide des différents budgets annexes et on a fait fort de surtout s'intéresser à n'oublier aucun de façon à ne pas se voir encore traîner devant le tribunal quand bien même le préfet a considéré que ça n'en valait pas la peine. S'agissant du budget, pour le faire très vite, hein, le budget du SPAN qui vient constater les résultats des différents contrôles. Depuis 2016, les nombres de contrôles sur les systèmes d'assainissement autonomes se sont multipliés. Donc, du coup, on génère davantage de dépenses, on génère davantage de recettes. Le budget, ce budget annexe s'équilibre par lui-même. S'agissant du budget annexe de l'Office de tourisme, qui est donc alimenté essentiellement par une subvention d'équilibre qui émane du budget principal, on garde toujours à l'esprit, c'est qu'il est financé que pour une faible part par la taxe de séjour, hein, avec toujours, enfin, moi, mon regret, mais le législateur le prévoit, c'est de la taxe de séjour qui est prélevée sur Bolène, la commune de Bolène ne l'encaisse alors qu'elle ne peut pas l'affecter aux dépenses correspondantes, et que c'est sans doute, et que les acteurs du tourisme bolénois en profitent aussi au travers de ces actions, voilà, mais c'est aussi ce que permet le législateur de rendre une inégalité sur le territoire, et que de façon à ce que tous ceux qui contribuent n'en bénéficient pas forcément de la même façon. Un budget qui, à l'issue de l'exercice 2019, dégage un résultat de clôture de un peu moins de 100 000 euros, ces 100 000 euros, c'est ce qu'on a amené au travers de la subvention d'équilibre. Ça veut dire que sur 2020, il va falloir augmenter un petit peu la voilure si on veut porter la même chose sur le fait que, au regard des absences de financement extérieur qui interviennent. Budget 2019 de l'Office de tourisme marqué aussi par une augmentation de dépenses et notamment qui se traduit sur tous les postes, aussi bien les dépenses à caractère général que les dépenses de personnel que le vestissement, qui est lié notamment donc à la mise en œuvre du PIT de Mornas hein, qui a été ouvert et mis en service en milieu d'année. S'agissant du budget d'annexe de la croisière, on est dans ces phases de démarrage avec simplement le volet des études. Je vous renvoie quand même à la délibération que l'on avait pu prendre le mois de décembre, hein, où on a défini les tarifs de commercialisation avec, pour faire le lien un petit peu à ce qu'évoquait le président Zillo tout à l'heure, une politique différente de celle de la Zande et qu'on soit bien sur un principe de vente des terrains en fonction de leur visibilité et de façon à ce que ceux qui soient les plus intéressants puissent être vendus à un prix plus intéressant pour notre collectivité. S'agissant du budget annexe de la ZAN Pan Europarc et de la Clastre, ils ont été créés, mais on n'a pas eu d'écriture constatée, donc on verra les premières écritures sur l'exercice 2020. S'agissant du budget annexe du pôle médical, là aussi, une dotation, une subvention d'équilibre de 150 000 euros en fonctionnement, qui vient compenser le delta entre la dépense que représente essentiellement par le loyer que paye la communauté de communes en termes de locataires de l'ensemble du bâtiment et des recettes qui sont générées par les contrats passés avec chacun des praticiens installés, à la fois pour la location des locaux, mais aussi pour les services de secrétariat ou d'entretien qu'on leur propose. S'agissant des orientations 2020, au regard des propos que je vous ai exposés tout à l'heure, pas de grande révolution. Des dépenses de fonctionnement au travers d'un budget 2020 qu'on évalue à un peu plus de 28 millions d'euros. On est, s'agissant je dirais de l'ensemble des dépenses qui font marcher la boutique sur des montants équivalents. Par contre, on peut estimer qu'on aura une baisse des contributions versées par les communes au travers des régularisations des attributions de compensation. Et sous réserve des décisions que prendront le préfet, parce que là aussi, un petit peu un rappel, hein, la CLECT a adopté à la majorité le transfert, l'évaluation des charges pour ce qui relève des équipements scolaires, sportifs et voiries. La commune de Bolène n'ayant pas délibéré, on remet le dossier au préfet, qui lui va statuer dans un temps certain ou dans un certain temps, de façon à venir définir est-ce que les valeurs qui ont été définies par la CLECT sont pour lui conformes et acceptables. Et une fois qu'il aura tranché, on pourra venir réaffecter le véritable montant des attributions de compensation. Et autre singularité, le montant n'est pas conséquent, mais illustre quand même un petit peu le fonctionnement. La communauté de communes s'est vue transférer la restauration pour la partie crèche. La CLECT avait, à l'unanimité de ses membres, donc y compris les élus de Bolène, avait adopté l'évaluation de ce transfert. La commune de Bolène ne l'a pas approuvé. Donc là aussi, c'est le préfet qui est en charge de définir cette évaluation. Tout ça, c'est pas dramatique, sauf que ça vient causer toujours on se retrouve avec des attributions de compensation provisoire, donc qui du coup peuvent affecter un certain un doute dans l'élaboration des budgets des communes, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'affirmer avec certitude que les montants que l'on retient seront ceux qui seront définis par le préfet et qu'on pourrait se retrouver dans certains cas de figure avec des montants moindres. Comment on élabore un budget sincère quand on n'a pas la connaissance de ces éléments-là au regard des montants conséquents que je vous indiquais. S'agissant des recettes de fonctionnement, pareil, on reste sur les mêmes montants que ceux qu'on a pu constater en 2019 et on aura l'occasion de rentrer de manière plus détaillée lors du vote du budget. Un point sur la fiscalité, avec la singularité, et c'est une information à donner à chacune des communes. En 2020, vous n'avez pas besoin de voter un taux de taxe d'habitation. Il est de droit le même montant, le même taux que celui de l'année 2019. On n'a pas voix au chapitre, c'est forcément le législateur qui nous impose de garder le même taux. S'agissant des autres taux sur lesquels on peut encore agir, la taxe foncière, c'est bien le choix qui sera assumé en 2020, c'est de ne pas faire évoluer ces taux-là. De la même façon que le taux de cotisation foncière des entreprises, qui est aujourd'hui 34,89, restera sur le même taux, avec toujours le même dispositif que l'on avait pu en mettre en œuvre, de base minimale, qui permet à près de 700 petits acteurs, et petits au sens simplement budgétaire, et parce que c'est aussi les forces vives de notre territoire, donc que sont les artisans, les petites structures commerciales, c'est au travers de ces bases minimales qu'on a pu instaurer, faire en sorte que leur taxe de CFE, anciennement taxe professionnelle, ne dépasse pas 75 euros. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, aussi le principe de garder les mêmes taux tels qu'ils avaient pu être définis par les communes et qu'on n'aille pas, tel que le sollicitait M. Morand, de but en blanc sur un lissage qui se traduirait par, notamment pour les territoires, les parties rurales de nos communes, vers une augmentation de façon à ce qu'on arrive sur un taux fixe, mais un travail sans doute à conduire. Et la volonté aussi, s'agissant de la taxe GEMAPI, de la maintenir à un taux de 0%, c'est-à-dire que c'est bien le budget général qui supportera l'ensemble des travaux et ils seront conséquents. La gestion de la dette, c'est les emprunts qui ont été transférés qui vont continuer à vivre. S'agissant de la programmation des investissements, je vous indiquais 12,8 millions en 2018, 13 millions en 2019. On table sur l'exercice 2020 un montant d'investissement de 15 millions d'euros où on y retrouve là. Alors, s'agissant... on est à la fois sur des opérations qui peuvent, pour la plus grande partie, se dérouler en 2020, mais les derniers mouvements budgétaires se feront sur l'exercice suivant. Sur le budget 2020, on n'écrira que les montants que l'on imagine devoir être financés et payés sur cet exercice-là. Je vous donne quelques chiffres. Donc, je l'évoquais précédemment, les 3 millions sur les fonds de concours correspondant aux opérations en cours par les différentes communes. 830 000 pour la maison du terroir, 1 million d'euros pour la salle de cinéma sur Bolène. S'agissant des bâtiments culturels, scolaires, sportifs, c'est une enveloppe d'environ un peu plus de 3 millions d'euros. 1 million 2 consacré à la voirie pour l'ensemble des voiries qui ont été transférées à la communauté de communes. On est sur le volet des déchets au travers de la déchetterie, de la recyclerie, sur près de 3 millions d'euros et on est sur des montants un peu plus d'un million d'euros pour le haut débit. Tout à l'heure, Rodolphe Pérez évoquait le volet GEMAPI, Ille-Vielle, etc. On devrait être sur des montants aux alentours de 800 000 euros et sur des montants aussi importants pour ce qui est du développement économique, à la fois et notamment, on pense aussi à ce qu'on essaie d'injecter au travers de la dynamisation commerciale qui représentera elle seule près de 420 000 euros. Un des points qui avait été fait largement débat, c'était sur comment on vient financer ces investissements. Et on l'écrit toujours, à un moment donné, quand on monte un budget, on le monte toujours de manière prudentielle, parce qu'on ne connaît pas le montant des différentes subventions, au travers de ce qu'on appelle souvent un emprunt d'équilibre. C'est le langage technocratique. Et l'an dernier, notamment, et on s'était un peu écharpé avec M. Morand en disant, on écrit un montant d'emprunt d'équilibre de 6 millions d'euros, avec tout le débat en disant, mais vous serez dans l'incapacité d'emprunter, de vous faire financer. On a emprunté zéro. Et de la même façon, sur cet exercice-là, on écrira un montant d'un emprunt d'équilibre de la même façon, à hauteur similaire d'environ 6 millions d'euros, mais on sait que ce montant-là sera déduit à la fois des subventions que l'on aura pu percevoir, et aujourd'hui, de manière prudentielle, souvent, on les minimise ou on les écrit à zéro tant qu'on n'a pas reçu les arrêtés de subvention. la possibilité de transférer des excédents de la section de fonctionnement vers la section d'investissement et des emprunts d'équilibre qui pourraient être nécessaires. Donc là aussi, si je devais rassurer M. Morand, mais je ne sais pas si je serais arrivé à le rassurer, entre de la théorie et de la pratique, souvent, il y a un gap. S'agissant des différents budgets annexes, on est aussi sur les mêmes profils que sur l'exercice 2019, avec sans doute la singularité du budget annexe de la ZAND qu'on devrait arriver à clôturer au travers du dernier lot qui serait vendu, donc où on viendra constater, mais on l'a affiché depuis très longtemps, le coût final pour notre structure intercommunale d'environ 1,2 à 1,4 million, mais avec le retour sur investissement qui sera largement fait au travers de la fiscalité, sans parler des gains économiques secondaires. Et pour les autres, notamment tout ce qui concerne la croisière, la Clastre, Zanpan, Europarc, des budgets qui, au travers du vote que l'on opérera, viendront constater les premiers mouvements, soit l'affaire de travaux ou d'acquisition foncière. S'agissant du budget de l'Office de tourisme, au regard de l'équilibre quasiment à zéro que l'on obtient à la fin 2019, la subvention d'équilibre qui était de 150 000 serait évaluée à 250 000 euros sur 2020. Et s'agissant du pôle médical, là aussi, une subvention d'équilibre à 250 000 euros parce qu'on va devoir le premier plateau tel qu'il a été conçu est quasiment complet ou complet et on doit envisager de passer sur le second plateau, donc une nouvelle phase tranche de loyer et une nouvelle tranche d'équipement complémentaire. Vous avez le détail sur les éléments de rémunération. Gardez à l'esprit que les éléments qui y figurent ne comprennent que la part nette versée aux agents, mais qu'il y a aussi les charges patronales et on retombe bien sur les 6 millions. Un petit peu rapidement, mais pour laisser la place au débat, voilà les éléments que je pouvais vous donner au travers à la fois des constats de l'exercice précédent et des orientations pour le budget 2020.
Merci, M. Grappin. Y a-t-il des questions ? Bien. Alors, je vais me permettre d'en faire. Serge, je t'en prie. Monsieur Basté, pardon, c'est à vous. Serge Fiori, pardon, je ne regardais pas, je notais quelque chose, excusez-moi. Serge, ton micro, Serge, s'il te plaît, parce que ça ne sera pas dans le PV. Merci.
Ok. Excuse-moi.
Je t'en prie.
Excusez-moi. Pour autant, Monsieur le Président, je suis candidat sur la liste Bolen à gauche, conduite par Daniel Barrière. Alors pourquoi, si je vote le budget, pourquoi je suis sur cette liste qui va quelque part vous contrarier au niveau de Bolen? Eh bien, d'abord parce que les élections municipales, celles où il y a le moins d'abstention, à part les présidentielles, sont des élections politiques. J'en veux pour preuve la candidature du Premier ministre au Havre, même s'il explique, mais qui va le croire, que c'est qu'il est sans étiquette. Alors, donc, rassembler Bolen, et c'est votre ambition, pour les Bolénoises, pour les Bolénois, pour que les Bolénois, les Bolénoises reprennent le contrôle de leur ville, ne peut se faire, à mon sens, que dans la clarté politique. Pour en oublier à nouveau ce mot déprécié. Ce n'est pas, Monsieur le Président, les démarches que vous avez choisies, et je le regrette. Ce n'est pas moi qui ai changé de positionnement politique, mais vous-même. Élu sur la liste socialo-communiste, comme dirait Madame Bompard, au fait, c'est pas désagréable quand elle est absente. Pour être plus concret sur la liste de Lambertin, Rassemblée Bolen, en 2014, vous avez opté pour Macron. C'est bien vous qui avez inauguré le centre de santé avec le ministre de l'Intérieur, Castagneur, pour les manifestants anti-retraite à points. Et vous voilà maintenant en politique. Donc vous n'avez pas pu rassembler, sauf par une ouverture au centre et à droite illusoire. Je suis peut-être hors sujet, mais je finis mon sujet quand même. Parce que, voilà.
S'il vous plaît.
À mes collègues. Donc
non,
je
mais
les si,
alors, d'abord, le public n'a pas la parole. Madame Discours-Montbelli, vous n'avez pas la parole.
Merci, monsieur le président.
Et monsieur Fiori, vous avez le droit de vous exprimer, mais je vous répondrai.
Mais j'y compte bien et je vous remercie. Bon, donc, vous n'avez pas réussi. Hein, oui, le centre en France, ça n'existe jamais bien longtemps. Vous n'avez pas réussi à rassembler, ce qui explique que vous avez une liste à gauche pour Bolène qui porte les exigences sociales, écologiques et démocratiques dans la clarté. Et j'en profite pour demander aux Bolénoises et aux Bolénois de donner la force à cette liste dans l'intérêt de notre ville et dans l'intérêt de l'Interco, de la CCRLP. Eh bien, je vous remercie, monsieur le président, d'avoir supporté cette mise au point. Et je vous remercie aussi, mes collègues, de m'avoir entendu sans trop de tension.
Bon, y a-t-il d'autres interventions sur le débat d'orientation budgétaire ? Bon, je vais vous répondre parce que vous m'interpellez, même si je ne veux pas profiter de cette collectivité, de cette assemblée pour faire une tribune politique. Moi, je voudrais juste intervenir d'un point de vue très pratique sur le débat d'orientation budgétaire parce que j'en suis très fier. Parce que je suis très fier de ce débat d'orientation budgétaire qui va faire en sorte de préserver le pouvoir d'achat de ses habitants au travers notamment de la restauration collective où quand même on va maintenir en 2020 maintenant depuis une dizaine d'années à 2,39 € le prix de la restauration collective qui est unique et le seul le plus bas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est aujourd'hui à mon sens ce qui est le plus important pour les familles. Moi, je poserai la question en tant que président, bien sûr, mais en tant que conseiller municipal de Bolène, puisque je vois 4 collègues élus, 2 rejetés, 2 opposants, 3 opposants, qui finalement devaient pas parler au nom des Bolénois et qui aujourd'hui, dans ce débat d'orientation budgétaire, sont les seuls représentants des Bolénois. Et donc, je me pose la question. Et si je vous ai laissé parler, Monsieur Fiori, parce que je crois profondément au débat, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais au moins il faut venir. Et celle qui prétend être défendre les Bolénois, et peut-être chez elle, j'ose pas le croire, au coin du feu à Orange, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas là aujourd'hui pour défendre finalement un budget qui se veut un budget, je le dis tout le temps, ça fait rire ma directrice générale des services, mais un budget qui résiste à la morosité ambiante dans un constat qui est quand même déplorable partout. Vous l'avez vu, le vice-président Grappin vient de le présenter. C'est un jour important pour l'Interco, il y en a 2 par an, le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. Et s'il y a bien 2 moments où on doit s'illustrer par sa présence, c'est bien cela. Vous dire aussi que le vice-président de l'intercommunalité, qui doit avoir les oreilles qui sifflent ce soir, puisqu'il nous avait parlé au débat d'orientation budgétaire en 2017 de ces 22 millions d'euros de trésor de guerre, vous l'avez gentiment dit, mais et il allait sûrement aujourd'hui nous dire qu'on n'en a plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus en France qui aimeraient être aussi mal que nous le sommes aujourd'hui, avec une clôture d'exercice excédentaire de 3,7 millions d'euros. C'est quand même remarquable, 3,7 millions d'euros, et où les 13,5 millions d'euros d'investissement que nous avions fait, je me rappelle à l'époque, Madame Le Maire qui reprochait à mon prédécesseur d'avoir dépensé 2,93 € par an et par habitant, nous avons fait 12,8 millions d'euros d'investissement réalisé, soit 94% de ce que nous avions prévu au budget. Donc nous n'avons pas forcément à rougir de cela. Une épargne nette, vous l'avez dit, de 2,4 millions d'euros, c'est purement remarquable, et d'autant plus que dans la configuration de cette attribution de compensation, vous le disiez, mais il faut quand même le rappeler, parce que tout le monde ne le comprend pas forcément, c'est-à-dire que la ville ne paye plus les services qui nous sont transférés, mais nous continuons à reverser à la ville et aux villes ce pourquoi elles devraient l'exercer. C'est-à-dire que les services qui ont été transférés à la communauté de communes aujourd'hui, en l'absence de l'arbitrage du préfet, sont payés 2 fois par la collectivité, directement et en reversement à chacune des communes. Et nous arrivons tout de même à avoir 2,4 millions d'euros d'épargne nette, ce qui prouve quand même que nous ne sommes pas si mauvais, même si je ne veux pas me lancer un autosatisfecit, du résultat que nous avons de 3,6 millions d'euros, comme vous venez de le dire, alors qu'en 2018, nous étions déficitaires pour ces raisons-là. Vous dire aussi que dans le débat d'orientation budgétaire de 2018, Madame Le Maire nous disait de rendre l'argent et de consacrer les 24 millions à des actions qui étaient plutôt limitées. Moi, je veux bien je veux bien aujourd'hui qu'on puisse nous faire ce procès-là, mais à chaque fois qu'on a mis du bon sens pour faire en sorte que les Bolénois, puisque je suis conseiller municipal de Bolène, soient défendus aussi dans cette intercommunalité, à chaque fois on a vu s'opposer ou avoir des obstructions. D'abord sur le débat d'orientation budgétaire, où on a été au tribunal administratif, où le préfet a rétabli nos comptes au centime près, qui ont été d'ailleurs présentés lors du conseil communautaire du 17 décembre, pour lequel Madame le maire a fait finalement fi du même courage, c'est-à-dire de ne pas venir, parce qu'elle savait très bien que finalement, il n'y avait absolument rien à nous reprocher. Et la dernière que j'ai apprise ce matin, je vous la livre quand même, c'est qu'on devait refaire le chemin de la Levade. Madame le maire avait dit dans son bureau que c'était du bon sens d'enterrer les réseaux avant de faire l'enrobée. Et puis, il y a des périodes qui sont plus excitées que d'autres. Elle est revenue sur sa décision ce matin et donc elle n'enterrera pas la ligne électrique du chemin de la Levade. Et donc, je ne referai pas le chemin de la Levade parce que je ne veux pas être un de plus dans ce mal français qui fait des enrobés puis qui rouvre pour faire en sorte d'enterrer des fils électriques ou des câbles. Et donc, on attendra d'autres configurations pour faire en sorte de faire le chemin de la Levade que beaucoup attendent, que certains ont abandonné puisqu'ils nous l'ont transféré parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire et où maintenant qu'on veut le faire, on ne nous donne pas les moyens de le faire. Là encore, il y a des priorités à préserver. Vous dire aussi que nous avons versé, en tant que conseiller municipal de Bolène, 3,1 millions d'euros de fonds de concours à la ville de Bolène. C'est quand même remarquable. Je pense que c'est important. Nous avons fait en sorte de mettre de la DSC du fonds de péréquation à hauteur d'1 649 000 que la ville aurait pu avoir. Et puis 1 million sur le déploiement de la fibre que nous annoncions depuis 2017 et dont je m'étonne encore de recevoir des citoyens qui n'ont pas d'adresse ou dont l'adressage par les services municipaux ne sont pas faits sur l'ensemble du territoire. Il y a donc deux discours. Il y a le discours du bon sens et puis il y a la réalité des faits. Et donc c'est quand même très regrettable que ceux qui se disent défendre des habitants, ceux qui ont eu mandat du peuple pour le faire, et majoritairement, plus de 50%, ne soient pas là pour débattre dès lors qu'ils ne sont pas dans une majorité, dans une assemblée. C'est totalement regrettable. Les élus de la Ligue du Sud ont fait le choix. Je fais bien évidemment la distinction de tous les élus de la Ligue du Sud, puisque Dr André est présent, et je veux écarter bien évidemment Jacqueline Morel, qui m'a donné pouvoir ce soir pour voter en son nom, de cette mascarade qu'elle cautionnait pas non plus le 17 décembre dernier. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que ce débat d'orientation budgétaire, à mon sens, mérite d'être mis en avant sur ce que nous avons investi, ce que nous allons faire, et surtout le fait que nous avons investi alors que nous avions mis 6 millions d'emprunts en 2019, mais je crois que M. Grappin l'a dit, et nous n'avons pas emprunté un centime pour financer les 94,5% d'investissement que nous avons réalisé, et nous prévoyons 13 millions sur l'année 2020, preuve s'il en était encore à démontrer que notre collectivité se porte très bien, qu'elle investit, et surtout, qu'elle a été, je pense, une des seules en France à vouloir accompagner les maîtres d'ouvrage que sont les maires dans leur collectivité sans imposer rien à personne, quelle que soit leur couleur politique, pour faire en sorte d'accompagner des projets de maîtrise d'ouvrage que chacun des maires voulait réaliser sur sa commune et qui a pu voir le jour grâce à ces 10 millions que nous avions débloqués durant ces dernières années. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là et je vais vous répondre. Monsieur Fiori, parce que vous m'avez parlé très précisément sur certaines choses. D'abord, je suis très heureux de ce pôle médical intercommunal de santé qui a vu deux médecins arriver en janvier et en février, qui a été inauguré à l'époque, cher Serge, non pas par le ministre de l'Intérieur, mais par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, puisque c'était sa fonction quand il est venu. Il était chargé des relations avec le Parlement sur les budgets. Il était en train de travailler d'ailleurs sur la question du numerus clausus, et je crois qu'il avait eu une très belle réponse à l'attention de Madame le maire, qu'il avait interpellé de vous voir, qui était à nos côtés d'ailleurs, pour inaugurer ce pôle médical. Et je crois qu'il ne faut pas retenir de cette inauguration cet homme-là, comme moi, mais retenir que sur ce territoire, il y a désormais un pôle médical qui a accueilli deux médecins supplémentaires, qui se développe, et vous l'avez vu dans le débat d'orientation budgétaire, qui va voir peut-être d'ici mars-avril un troisième médecin arriver, puisque c'est l'information que nous avons depuis la semaine dernière, et donc qui finalement essaie de résorber cette question de désertification médicale. Et quand on peut le faire d'ailleurs ailleurs, ça me permettra de répondre à vos collègues, cher docteur André, qui m'interpellait par voie de presse, puisque je vous ai en face c'est que si la pharmacie de la Palu avait voulu faire un projet médical privé, comme la SCI Nicolas et le docteur Nicolas de Mondragon, que nous avons largement subventionné pour faire en sorte qu'ils puissent maintenir une offre médicale sur sa commune, nous l'aurons fait. Nous ne sommes pas en compétition. Je pense que s'il y a des élus qui n'ont pas des mêmes couleurs politiques, c'est un fait, mais moi, je n'aide pas les gens en fonction d'une couleur politique. Certains le font, pas moi. Si la pharmacie m'avait demandé de développer un pôle médical privé à la Palu, je vous assure les yeux dans les yeux que je l'aurais subventionné. Sauf que j'ai vu ni projet, ni perspective de développement. Alors, soit monsieur de Fès est un provocateur, ce que je ne crois pas, et s'il le dit par méconnaissance, c'est pire. Je vous le dis les yeux dans les yeux, parce que la campagne électorale ne permet pas tout, et encore moins la calomnie et le mensonge. Et donc j'attendais de vous voir pour vous le dire, puisque je sais que c'est vous qui l'avez investi, parce que c'est malhonnête, et c'est finalement très éloigné de ce qu'attendent les citoyens de notre territoire. On peut tout dire, mais ni mentir, ni être malhonnête, et donc je voulais résorber ça. Et si la pharmacie veut faire un pôle médical, qu'elle nous dépose un dossier, nous l'aiderons, comme nous l'avons fait partout, pour des kinés, pour des médecins généralistes, sur l'ensemble du territoire, parce que c'est notre rôle et parce que nous le faisons surtout pour les habitants et surtout pas pour des partis politiques. Donc je voulais vous le dire, je sais que vous allez me répondre, mais je voulais vous dire ça. Deuxième chose, monsieur Fiori, je vais vous répondre aussi, sur la question de la défense des services publics et sur ce que nous faisons. Je crois, et ça vous honore ce que vous venez de dire sur la question de la continuité que vous apportez sur le vote du budget, mais j'en doutais pas un seul instant. Simplement vous dire, je crois que la politique que nous venons aujourd'hui au sein de cette collectivité est une politique qui préserve le pouvoir d'achat des habitants dans les compétences qui sont les siennes. Les communautés de communes n'ont pas la totalité des compétences, bien évidemment, mais elles le font au travers de compétences qui sont directes. Alors la question des déchets, il y a bien sûr des évolutions à apporter, on en a débattu longtemps d'ailleurs avec M. Basté, mais je pense que c'est très important qu'on puisse faire évoluer les politiques de services publics, la question de la restauration collective aussi, et faire en sorte surtout de pouvoir apporter de la cohérence aux politiques publiques que l'on mène. Par exemple, l'incohérence aujourd'hui la plus grande est à mon sens celle de l'école, où il y a du personnel municipal qui gère une partie, un personnel intercommunal qui en gère une autre, et où je pense qu'on aurait tout intérêt, puisque la loi nous le permet désormais, soit passer d'un côté, soit passer de l'autre, mais qu'on arrête de doublonner des finances qui sont finalement l'argent des contribuables et qui ne méritent pas qu'on puisse s'amuser autant que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, avoir du personnel qui nettoie, du personnel qui surveille, du personnel qui produit et qui à chaque fois est différent d'une collectivité à une autre. Je pense que là, on a beaucoup de choses à faire, mais j'en veux à personne parce que c'est le législateur qui nous a, à un moment donné, permis de faire ce montage-là, mais il n'est pas respectueux de l'argent du contribuable, et donc je tenais quand même à le dire aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ça, pour essayer de répondre à vos interpellations, et puis surtout vous dire que, contrairement à ce qui avait été dit, je pense que nous avons des marges de financement, nous avons une épargne nette et une capacité d'autofinancement qui nous permet d'investir pour l'avenir. Nous avons remis, vous me dites si je me trompe, M. Grappin, mais je crois qu'on a remis 6 millions d'emprunts comme on avait mis 6 millions l'année dernière. Je ne suis pas certain qu'on soit en capacité d'ailleurs de les mobiliser tous comme nous avons mobilisé aucun centime d'emprunt sur l'année 2019. Mais c'est une prévision que nous avons apportée et qui avait été vue d'ailleurs en commission finances. Voilà, je ne veux pas être plus long. Si vous voulez répondre, monsieur.
Oui, je vous remercie de votre aide future. Quant à ce projet, je pense, le fait de faire un pôle médical, ça aurait été certainement à monsieur sous l'avis de le proposer.
Ah.
C'est de le proposer. Ensuite, le problème de monter un pôle médical en accueillant d'autres médecins, en fait, nous avons 2 ans devant nous pour essayer de former ce pôle médical. Hein, nous sommes 3 médecins. 2 sur 3 risquent de s'arrêter. Mais en fait, cette évaluation, nous ne le savons pas encore. Mais voilà. C'est une proposition qui nous va droit au cœur et nous vous remercions, M. Zilio, de penser à nous, mais de penser que M. Soulavi aurait dû éventuellement vous interpeller pour, voilà, puisqu'il était en poste et certainement inquiet pour la santé médicale de la Palu. Je vous remercie.
La parole, s'il la souhaite. Ouais.
Alors, sur le sujet avec la pharmacie de la Palu, M. Frelon m'avait contacté au tout début, donc ça va faire 2 ans. On a tout mis en œuvre pour l'aider. On avait même fait venir les bâtiments de France parce qu'il y avait une histoire avec le clocher de l'église et tout ça. On avait fait avancer le sujet, mais comme par hasard, l'architecte qui n'est pas là ce soir, mais qui pourrait en témoigner, comme par hasard, son projet, d'un coup, il s'est arrêté. Alors après, c'est reparti. Maintenant, après, il a voulu repartir. Je ne sais plus où il en est. Mais on n'a jamais barré la route au projet de la pharmacie de la Palue. Alors, c'est vrai que j'ai dû en parler avec l'Interco, qui avait le pôle médical qui s'est monté. Mais on n'a jamais freiné. Alors, j'en reviens à ce que disait le président. Ou M. Defesse ne savait pas, ou alors si... Il y a peut-être une autre raison. Voilà. Donc, sachez que le projet de la pharmacie de la Palue, on n'a jamais barré la route.
Monsieur Massard.
Merci, Président. Oui, dans tout ce que vous avez dit, effectivement, et surtout au niveau des transferts de compétences, c'est vrai qu'il y a encore des cacophonies et des incohérences qui, malheureusement, que la population, citoyens bolénois et citoyennes, subissent. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand on fait de la politique politicienne, on en arrive à s'octroyer tous les droits, pour certains, hein, pas pour tous, et jamais penser aux devoirs, et je dirais même à l'intérêt général. Voilà. C'était pour, parce que vous avez des interrogations, je vous réponds à vos interrogations.
Très bien. Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets pas aux voix, c'est un rapport. Non, il n'est pas soumis aux voix. Je vous demande juste d'en prendre acte, et nous avons débattu. La question numéro 11, il s'agit de la convention de remboursement aux emprunts 2018 et 2019 pour la commune de Mornas, Monsieur Grappin.
Oui, dans le...
S'il vous plaît, chers collègues, on n'a pas beaucoup de questions encore, mais
dans
juste...
Dans le droit fil de mes propos précédents, a été transféré, enfin reconnu d'intérêt communautaire à compter du 9 juillet 2018, les équipements suivants de la ville de Mornas, donc l'école d'Olto, son annexe périscolaire Loupichoun, et les aires de stationnement des enseignements et des usagers. Donc, ayant été reconnu d'intérêt communautaire, relève d'une charge par la communauté de communes. Il se trouve que la commune de Mornas avait souscrit des emprunts pour financer partie de ces investissements, qu'il convient donc que ces emprunts soient à la charge de la communauté de communes. Le montant correspondant a été déduit de l'attribution de compensation. Il se trouve que, au regard des procédures administratives, des temps d'échange avec les banques, c'est la commune de Mornas qui a assumé pour la totalité de l'exercice 2019 et pour la période du 9 juillet au 31 décembre ses charges à la fois en termes de capital et d'emprunt. Donc il vous est proposé au travers de la convention à adopter ce soir, c'est qu'on puisse rembourser à la commune de Mornas pour un montant total de 79 100,89 € les charges d'emprunt, capital et intérêt correspondant à cette période du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2019, tels qu'ils avaient été affectés au financement de cet équipement transféré depuis à la communauté de communes.
Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Rica.
Oui, Président, ce n'est pas une question, c'est le besoin, un peu comme M. Fiori, mais sans discours politique préalable, d'expliquer mon vote ce soir. Donc je vais voter favorablement à ce transfert d'emprunt, à ce remboursement d'emprunt, pardon, parce qu'il me semble effectivement tout à fait normal, puisque la compétence a été transférée, que ce mouvement financier puisse être. Par contre, je profite de cet instant pour rappeler encore une fois publiquement que j'étais absolument contre ce transfert de compétences.
Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 13, il s'agit de l'attribution de compensation provisoire 2020. Monsieur Grappin. Pardon. Cette fois, c'est la Palue et c'est la convention de remboursement d'emprunt de la commune de la Palue. Question 12, monsieur Grappin.
Au regard de la rigueur budgétaire qui me sied à la Palue, j'aimerais bien qu'on puisse solder ce dossier-là. Donc, de manière similaire... On est donc sur le cas d'emprunt qui avait été affecté aux travaux de réaménagement de l'école élémentaire Louis Pergaud et l'école du Parc, donc depuis dénommée René Char, et selon le même principe que j'avais évoqué. Mais là, ça ne concerne exclusivement que la période du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puisqu'en 2019, c'est bien la communauté de communes qui avait assumé les charges correspondantes. Donc, il vous est proposé d'adopter la convention qui permettrait de rembourser à la commune de la Palue les charges afférentes donc, du 9 juillet au 31 décembre pour un montant total de 7 706,21 €.
Oui, juste pour rassurer le maire de Mondragon qui me dit, moi aussi, je vais transférer quelques emprunts, c'est que c'est déduit de l'attribution de compensation, ça veut dire que c'est les communes qui le payent et on reverse en moins à la commune ce qu'on doit reverser tous les mois. Donc c'est la ville qui continue de payer, mais c'est nous qui supportons l'emprunt. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 13. Il s'agit de l'attribution de compensation qu'on parlait dans le cadre de la CLECT. Monsieur Grappin.
Toujours, et on est vraiment au cœur de nos débats, mais c'est ce qui a fait l'histoire au travers de ces derniers transferts de compétences. Comme je vous l'indiquais, donc on a au moins deux dossiers qui ont été évalués par la commission locale des charges transférées, à la fois le triptyque équipement scolaire, équipement culturel, sportif et voirie, et d'autre part la crèche de Bolène, pour lequel le montant total de la charge transférée n'a pas été arrêté, parce qu'au moins une des communes ne l'a pas acté, et chaque fois c'est la même commune, Bolène. Et donc on attend une décision du préfet afin qu'il tranche. Et il convient au regard de la loi, c'est qu'on affecte malgré tout des attributions de compensation que l'on appelle provisoires, de façon à permettre les mandatements et les écritures comptables entre la communauté de communes et la commune. Pour rappel très vite, au regard des dossiers différents transferts qui ont été effectués. En 2019, la CLECT avait évalué, au regard de ses charges, une AC totale de 10 753 000 euros. Il se trouve qu'en 2019, on a versé, sur la base des attributions de compensation provisoires qu'on avait affectées, on a versé, ce 10 753 000 concerne l'ensemble des communes, sans faire le détail, mais le détail figure par commune. On a reversé aux communes un montant global de 11 155 000 euros, soit un trop versé de la part de la communauté de communes aux communes de 401 028,89 euros. Donc, dans la définition de l'attribution de compensation provisoire 2020, on avait défini un montant, la CLECT avait défini un montant de l'attribution, du coût de l'attribution qui devait en résulter. Ce qu'il est proposé, c'est qu'on vienne affecter à ce montant qui avait été arrêté par la CLECT, on vienne lui déduire les 401 028,89 et de façon à ce qu'on ne travaille pas, donc on aboutit à un montant de 11 267 937 et quelque chose. On vient d'arrondir ces montants-là à un montant de 11 313 600 et vous en avez la répartition suivante. 10 400 000 euros, 10 400 000 euros à la commune de Bolène, 23 100 euros à la commune de La Motte, 112 500 euros à la commune de La Palue, 633 000 euros à la commune de Mondragon et 155 000 à la commune de Mornas en tant qu'AC provisoire 2020 qui sera ensuite réévaluée en fonction de la décision que prendra le préfet de définition de manière définitive du coût de ces charges ainsi transférées.
Si les interventions, je parlais avec la directrice générale parce que c'est quand même, on peut voter une attribution de compensation provisoire, la loi nous le permet, mais on ne peut pas voter l'attribution de compensation définitive, le vice-président le disait, mais on a quand même 5 à 6 millions qui sortent, qui sont dehors. Et qu'on aimerait retrouver dans les caisses de notre collectivité, puisqu'on a quand même un budget qui est excédentaire, mais il manque 5 ou 6 millions du fait que l'attribution de compensation définitive ne soit pas actée. Donc on veut bien continuer à travailler. On travaille depuis le transfert des compétences du 9 juillet 2018, du 1er septembre 2018, et nous sommes en 2020, et nous attendons toujours que tout le monde se mette d'accord pour attribuer de manière définitive et non plus provisoire les attributions de compensation. Et pour la collectivité Rhône-Lès-Provence, même si j'entends chacun des maires qui peut pour certains être d'accord sur l'attribution de compensation provisoire que la loi nous permet de voter, il serait bien quand même que ces 5-6 millions qui traînent dehors puissent rentrer dans les caisses au travers d'une attribution de compensation définitive que le préfet arbitrerait. Oui.
Si vous me permettez, Monsieur le Président, c'est juste pour venir éclairer les collègues qui ne figurent pas à la CLEC, mais aussi le public qui écoute, quel est le cœur de notre différend, parce qu'on peut dire on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Sur le volet de la crèche, on n'est pas sur des grands montants, là je ne sais pas pourquoi on n'est pas d'accord, puisque par définition, lors de la CLECT et les élus bolénois étaient là, on était d'accord. Pourquoi l'accord qui figure en CLECT ne remonte pas en tant qu'accord au conseil municipal de Bolène, là je ne sais pas et je n'ai pas la réponse et je ne comprends pas. S'agissant après du triptyque équipement scolaire, sportif, etc., on est aujourd'hui sur un différent d'environ 180 000, donc on ramène les 180 000 aux 14 millions, qui correspondent en fait à un volet du chapitre personnel où, au regard de ces transferts de compétences, la commune de Bolène a souhaité transférer à la communauté de communes des agents qu'au regard de la loi, on ne pouvait pas soit transférés, parce qu'on prend un exemple, quelqu'un qui est affecté à la piscine mais qui n'a pas les labels entre guillemets, correspondants lui permettant d'exercer auprès des enfants, on ne peut pas venir, on a dit on ne le récupère pas à la communauté de communes, puisque par définition on ne peut pas l'affecter sur le volet le poste. Ou des agents qui ont été transférés, enfin qui avaient changé de service d'affectation au dernier moment, mais qui n'ont jamais travaillé sur ce poste-là. Donc on a fait grief et on a fourni, nous, dans le cadre des États, la liste des personnes pour lesquelles on souhaitait et on disait on ne peut pas venir les transférer à la communauté de communes au regard de ces impossibilités juridiques. Donc on est aujourd'hui sur un différent de l'ordre de 180 000 euros. Il y avait deux façons de faire. Soit c'était de dire on s'assoit dessus et aux élus de Bolène, on vous fait gré de ces éléments-là, mais à un moment donné, on ne peut pas venir nous reprocher d'être mauvais gestionnaire et de dépenser, et par contre de vouloir solliciter ces 180 000 en cadeau. Voilà. Donc on est sur ce volet-là. C'est le montant du désaccord. Il est conséquent, 180 000, ce n'est pas une perle. Ramener aux 14 millions, ce n'est pas grand-chose. Si on raisonne sur 3 ans, c'est encore moins. Par contre, voilà, on sait où est le problème. Et on attend que le préfet tranche. Le préfet, je crois, est embêté parce que ça lui est encore jamais arrivé de devoir arbitrer des transferts de compétences.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Madame Ricard, Monsieur Bastet, qui est contre? Dossier adopté à la majorité, je vous remercie. Question suivante, il s'agit du contrat régional d'équilibre territorial. C'est finalement un contrat avec la région Sud, PACA. Monsieur Grappin.
Ce qui vous est proposé, c'est de signer, d'élaborer une convention qui nous lie à la région Sud PACA au travers de son dispositif financier qui s'appelle Contrat Régional d'Équilibre Territorial, le CRET, qui nous permet de venir appeler un certain nombre de subventions. Pour mémoire, au travers du CRET précédent, on avait pu notamment venir financer des travaux sur l'île Vieille, sur des dispositifs d'aménagement d'études, d'aménagement de zones d'activité économique. Au travers de ce dispositif, sur la période 2019-2022, trois opérations sont inscrites. Le développement du photovoltaïque, avec une subvention possible à notre communauté de communes de 21 000 euros. Un financement partiel sur la maison du terroir pour une subvention de 142 000. Et, poste plus conséquent, sur la déchetterie et la ressourcerie, une subvention que pourrait nous verser la région de 916 000 euros, donc ce qui représente un montant total de 1 079 000 euros. Et donc, il vous est proposé de signer ce contrat bilatéral entre CCRLP et la région pour, de façon à pouvoir appeler ces 1 079 000 euros sur cette période triennale.
Merci. Y a-t-il des questions? L'occasion de saluer aussi le Conseil régional et son président qui nous octroie 1 million d'euros pour la déchetterie. C'est unique, hein, on est les seuls. 1 million d'euros sur une déchetterie, je pense que c'est quand même un beau geste de la région, puisque qui sera situé à Mondragon, comme dit monsieur le maire qui y tient. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question 15, monsieur Grappin n'y voyait pas d'ombrage, mais je pense que cette question qui est sur l'association de l'amicale des pêcheurs du canton de Bolène doit être rapportée par monsieur Pérez, donc c'est monsieur Pérez qui va rapporter cette délibération.
Volontiers, président. Une fois de plus, puisque l'opération s'est déjà produite par deux fois, en 2018 et en 2019, donc ici pour 2020, nous sommes invités à la même chose. Le souci de l'amicale des pêcheurs du canton de Bolène et de son président Serge Sulmont est de veiller au bon équilibre du milieu aquatique qui est sur notre commune. Donc ici, dans le cadre de la protection et de l'équilibre du milieu piscicole, conformément à la loi GEMAPI, nous sommes invités à reconduire cette subvention exceptionnelle de participation à un repeuplement d'une pièce d'eau du territoire au moyen de 100 kg de cendre et 150 kg de poisson blanc, sachant que le prix du cendre est à 23 euros le kilo, celui du gardon à 5 euros le kilo. Le coût total de l'opération s'élèverait à 3050. Nous sommes plafonnés à une participation de 80%. C'est pour ça que l'aide sollicitée de la collectivité s'élèverait à 2440 euros. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'octroyer cette subvention de 2 440 euros à l'association de l'amicale des pêcheurs du canton de Bolène dans le cadre d'une opération d'alevinage de diverses espèces de poissons, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget primitif du sujet principal 2020 aux natures et fonctions prévues à cet effet, d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions? Madame Ricard. Votre micro, madame.
Oui, je vous ai déjà posé cette question il y a 2 ans. Je voulais savoir si ce serait toujours la même réponse. Si d'autres associations voulaient s'occuper de l'équilibre, de préserver l'équilibre de la faune aquatique sur le territoire intercommunal, les aides seraient les mêmes. Ce n'est pas réservé à l'association de Bolène.
Non, et je vais même aller plus loin dans, dans votre question, parce que j'ai eu une demande de subvention de l'amicale de la Gaule du Rhône, de Mondragon, je crois, qui veut qu'on subventionne cette fois des poissons pour un concours de pêche. Donc on n'est pas du tout dans la même optique. On intervient dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques, de la restauration de la faune et de la flore, et de la préservation de la biodiversité.
On est d'accord.
Et c'est à ce titre-là que nous intervenons. C'est pas, on ne met pas des tonnages de cendres, etc., pour que des gens viennent les pêcher quelques heures après. Donc je le dis, si la presse peut s'en faire écho, et on le redira, et je l'ai dit au président de la Gaule du Rhône, mais on n'est pas là pour financer des concours de pêche. Voilà, je vous le dis. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Les deux dernières questions touchent aux ressources humaines. J'en suis le rapporteur. Renouvellement de la convention mise à disposition d'un agent communal entre la commune de La Motte-du-Rhône et la CCRLP. Vous savez que le syndicat des digues a été dissous. Vous savez aussi que le maire de La Motte-du-Rhône était en charge de la présidence de ce syndicat et que par conséquent, sa secrétaire de mairie avait un temps qui était dédié à ce syndicat. Je n'ai pas souhaité justement que ça change. Je pense que la gestion des digues du Rhône, qui était assurée par le maire de La Motte, peut continuer à l'être. Cet agent administratif de la commune de La Motte exerçait ses fonctions de secrétaire. Il est par conséquent proposé que Mme Laurence Boisseau, secrétaire de mairie de La Motte, puisse, à hauteur de 10% de son temps complet, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, permettre de continuer à suivre ces dossiers et à m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de cette présente délibération. C'est exactement la même que nous avions prise l'année dernière. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'un agent de la communauté de communes au syndicat hydraulique du Nord-Vaucluse. Donc, vu la délibération du conseil communautaire du 5 novembre 2019 qui a approuvé la convention de mise à disposition de Mme Thévenot, agent intercommunal auprès du syndicat hydraulique pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, considérant l'absence de Mme Nadine Thévenot pour raison de santé, il convient d'assurer la continuité du service en l'absence de cet agent. Il vous est donc proposé la mise à disposition auprès du syndicat hydraulique de Mme Hélène Ruche du 20 janvier au 31 décembre 2020. À hauteur de 40,9% du temps complet, comme ça avait été défini dans les grilles de répartition. Conformément à la réglementation, cette mise à disposition est opérée à titre onéreux. Les modalités pratiques et financières sont précisées dans la convention que vous avez eue. Il est proposé d'approuver cette convention et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à cette question. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La séance est levée. Le vote du budget primitif sera le 3 mars.